Freedom Fighter.
La nature nous a donné un cerveau. L'encre coule sous la plume de mon stylo. Ma principale arme est le micro. Pour plus d'humanité et moins de mégalos. Je ne vais pas te redire et te refaire la même rengaine. Écologie protège la terre. Dans leur sphère, le ministère, leur grenelle. Aïe, les lobbies s'emparent d'elle. Mais ma mission est pour prêcher le naturel. La terre est si belle et ils se l'approprient. Prise de conscience, l'humain reste dans l'oubli. La place de l'homme en osmose avec la nature. Pas dans leur système économique, leur culture pleine d'OGM. La vie de nos enfants sera dure. Sera dur, consommation d'aliments modifiés, génétiquement naissant au fireburn. Pourquoi tu mens? Le ministère donne bonne conscience, c'est accablant. Le ministère donne bonne conscience, c'est accablant. Freedom fighter for the earth, freedom fighter, hey. Freedom fighter for the earth. Freedom fighter. La nature nous a donné un cerveau. L'encre coule sous la plume de mon stylo. Ma principale arme est le micro. Pour plus d'humanité et moins de mégalos.
La goutte d'eau coule sur la feuille. Besoin vital de se ressourcer. L'eau c'est la vie, l'arbre c'est la vie. Les cellules se multiplient à l'infini.
La beauté de la nature, croire en elle. Même si ta vie est dure, elle ne tient parfois qu'à un fil. Seulement pour les lois de la nature. Oh, pour les lois de la nature.
Plantes, juste des besoins vitaux.
Voilà, c'est différent pour les animaux.
Si la nature leur a donné un cerveau,
on l'utilise au maximum pour faire monter le niveau. On pense, on réfléchit, mais l'homme
ne serait-il pas comme la goutte d'eau?
Satisfaire ses besoins, celui des autres, c'est déjà trop.
C'est déjà trop.
A freedom fighter for the earth. A freedom fighter, hey. Freedom fighter for the earth. Freedom fighter, hey.
La nature nous a donné un cerveau. L'encre coule sous la plume de mon stylo. Ma principale arme est le micro. Pour plus d'humanité et moins de mégalos. Ce texte replace simplement l'être humain au milieu de la vie, profiter d'elle, elle est si belle. Je ne vais pas me borner à de banales morales. Ma vision de l'homme, c'est le naturel, c'est normal. Ma vision de...
Au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste. Et Urbi comme Orbi, ça n'a pas changé, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. C'est du côté de République, Cirque d'Hiver, tout ça. Et c'est ouvert du mardi au samedi à partir de 14h. Bon, on est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Jules Durand, on va en parler, on est là pour ça. Avec Monique à la technique, maintenant qu'elle a tout démonté les micros,
elle a posé
son marteau et son tournevis, on va pouvoir entrer en action. Bon, bonjour Roger Colombier.
Bonjour à vous.
Édition Sileps. Jules Durand, une affaire Dreyfus au Havre, 1910-1918. Hein, je vous disais hors antenne, bien que je ne connaisse pas, j'avais un peu oublié ce que c'était, là. Je pensais que c'était une affaire connue, et je me suis aperçu qu'il n'y a pas grand écho dessus, non ?
Oui, il n'y a pas grand écho par rapport à Jules Durand. Il y a une association qui s'est créée au Havre, qui s'appelle les Amis de Jules Durand, qui ont fait un travail très, très remarquable. Ils sont allés fouiller les archives nationales, les archives départementales, les archives de la police. Et donc, à partir de ça, ils ont créé cette association. Et ils viennent de sortir, ils ont fait un colloque au mois de novembre 2014, je crois. Et ils ont sorti un bouquin par rapport à ce colloque.
Et vous ne connaissiez pas avant de commencer le travail ?
Non. Je suis tombé par hasard sur un livre qui avait été fait par Alain Scoff en 1987, qui partait au pilon d'une bibliothèque. Et au dos de ce livre, on parlait de Jules Durand, anarchiste, d'accord, qui était condamné à mort et un syndicaliste à la CGT.
C'est pourtant une affaire qui, à l'époque, a fait du bruit.
C'est une affaire qui a fait du bruit, puisque toute la CGT s'en est emparée, nationalement et internationalement. Oui. Il y a eu de la solidarité en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, même aux USA. Il y a Jean Jaurès, qui était un des dirigeants du Parti Socialiste de l'époque, et son journal L'Humanité, qui a pris parti dès le premier jour de la condamnation de Jules Durand. Et il y a aussi un député, Paul Meunier, radical socialiste, qui lui aussi a pris parti pour Jules Durand dans le journal de droite.
Alors, outre l'affaire Durand, on va l'expliquer, là, votre livre chez Sileb, c'est très intéressant, parce que vous avez tenu à faire un état du prolétariat de l'époque, hein, un état du syndicalisme, un état aussi de ce qu'était la gauche à l'époque, un état aussi de la vie carcérale, qu'elle soit la prison ou l'asile. Ouais. Donc il y a tout un ensemble autour. Alors je vais vous raconter ma vie, mais on est ma vie vite fait parce que vous êtes là pour ça. J'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. On est en plein dans le vif du sujet, rassurez-vous. J'ai lu deux livres en même temps, le vôtre, Jules Durand, l'affaire Dreyfus, et un livre qui vient de sortir de Gustave Geffroy, Blanqui l'enfermé, et qui a été commencé en 1885, je vérifie ça de plus près, 86, et fini en 1925. Et je lis les deux livres en même temps, parce que je voulais faire une émission sur Blanqui. Je ne sais pas si Blanqui vous inspire.
Oui, oui.
On en reparle. Alors, ça va très bien. Et je croyais que Blanqui était quelque chose que tout le monde connaissait dans certains milieux. Je me suis aperçu que ça devenait très difficile de le faire là. Donc je lis les deux livres en même temps et je m'aperçois quoi ? Que juste avant de mourir, Blanqui en 1800, bien sûr, entrevoit Clémenceau, Georges Clémenceau, comme celui qui peut satisfaire le monde ouvrier, le monde des travailleurs. Et on s'aperçoit qu'en 1910, on va employer un terme simple, il est devenu le pire des salauds. Non ?
Absolument. Il faut savoir que Clémenceau est un des premiers qui se bat pour réhabiliter le capitaine Dreyfus. Et puis après, il rentre au gouvernement et comme beaucoup de socialistes de l'époque, il tourne kazakh.
Fondateur de la Ligue des droits de l'homme aussi, Clémenceau, non ?
Je ne sais pas s'il était un des fondateurs, mais il a été un des membres influents de la Ligue des droits de l'homme, oui. Et lorsqu'il rentre au gouvernement, parce que le Parti socialiste, comme il fait actuellement, change souvent de veste pour aller à droite, ben, Clémenceau est le Premier ministre de l'époque, le président du Conseil, Millerand, qui est aussi un dirigeant du PS de l'époque, change kazakh et vont à droite.
Est-ce que c'est pas très proche, alors je viens d'arriver là, hein. Ah, il y a Aristide Briand aussi qui est premier secrétaire.
Aristide Briand aussi, oui.
Est-ce que c'est pas très proche de ce qu'on va se passer maintenant ?
C'est pas très proche, c'est d'actualité.
D'actualité.
Dès que le Parti Socialiste ou quelques-uns de ses dirigeants arrivent au gouvernement, il faut une politique de droite.
Voilà.
Si on regarde 1936, le Front Populaire avec une majorité de gauche, en 1937, Léon Blum, qui est le président du Conseil des ministres socialistes, décrète la pause sociale. Mmh. Lorsque la guerre civile d'Espagne éclate, il déclare la non-intervention.
Mais Blum ne tire pas sur les ouvriers, quand même. Tandis que Clemenceau tire sur les ouvriers.
Blum ne tire pas sur les ouvriers, mais il ne fait rien pour empêcher que la police tape sur les ouvriers.
D'accord. Mais alors là, vous allez, on est en plein dans le sujet. Mais ce glissement qui va se passer, il va se poursuivre, parce qu'on va voir quand même que si on regarde les années 39-40, il y a autant de collabos qui sont de droite que venant du Parti Socialisme.
Non, plus quand même de droite que...
Il y en a plus de droite.
Oui, il y en a plus de droite que de gauche. Oui,
vous êtes sûr de ça?
Oui, puisque dans les députés qui votent contre les pleins pouvoirs à Pétain, la grande majorité sont du Parti Socialiste.
Un Doriot.
Un
Laval, un DA, c'est des gens qui viennent de la gauche. Ça.
C'était des radicaux socialistes, on peut dire que c'est les démocrates chrétiens de Boutin, quoi. C'est la gauche, ça entre la gauche, quoi.
D'accord. Avant de plonger dans Jules Durand, là, Blanqui, ça vous inspire? Moi, j'en trouve un que ça inspire, Blanqui.
Blanqui, je pense que c'est un natif de mon département de l'Aude, non?
Il n'y a pas que ça.
Non, mais voilà pourquoi je connais Blanqui, parce que je suis natif de l'Aude. Et donc, je me suis intéressé un petit peu à Blanqui, qui a passé toute sa vie en prison.
Comment vous le situez, vous?
Ben Blanqui était à l'extrême gauche et malheureusement, comme il était souvent en prison, il n'a pas pu impulser assez le mouvement ouvrier. Mais ses idées étaient vachement révolutionnaires pour l'époque. Même s'il s'est trompé sur Clemenceau.
Clemenceau, oui. Vous savez qu'on lui doit la formule ni Dieu ni maître. C'était quand même sur son journal ni Dieu ni maître. Hein.
Oui.
Voilà. Hein.
Cette formule a été reprise par mon arrière-grand-père. Enfin, a été reprise. Mon arrière-grand-père français, puisque je viens de famille espagnole et famille française, mon arrière-grand-père français, dans les années 1900, décrète, c'est un marin pêcheur, ouvrier. Et il a la marre d'être exploité par les patrons. Et donc, il décrète lui-même ni Dieu ni maître. Bon, ni Dieu, c'était facile, il était anticlérical notoire, puisqu'en 1905, lorsqu'on va faire l'inventaire de l'église de mon village, il rentre dans l'église avec le maire pour foutre dehors les grenouilles de bénitier, donc c'est un anticlérical convaincu. Et après, il vit que de glaner des fruits et des fleurs sauvages, un petit peu de braconne, et voilà. Donc il vit toute sa vie, il fait vivre toute sa famille ainsi.
D'accord. Mais parenthèse, l'idée de Dieu, c'est difficile à l'enlever de l'esprit du prolétariat, parce qu'on voit un Jules Durand, cégétiste, anarchiste, et quand même un mystique, quelque part.
Oui. C'est un mystique, mais est-ce qu'on peut considérer Jules Durand un anarchiste pur et dur? Je me suis posé la question, et dans les études que j'ai faites, dans les archives de la CGT, les archives nationales et les archives départementales, premièrement, c'est un homme qui croit. Hein, puisque même lorsqu'il vit chez ses parents, il y a un crucifix dans sa chambre. C'est un homme qui réfute l'union libre. Il est en instance de divorce avec sa première femme, avec sa femme même, et il est en concubinage avec une autre, et il fait tout son possible pour divorcer et pour se marier avec sa seconde compagne. Et puis, j'ai connu les anarchistes, puisque mon grand-père était un dirigeant local de la CNT, il a fait la guerre civile dans les rangs républicains lors de la guerre civile, et mon grand-père me racontait que dans sa tendre jeunesse à Barcelone, ils allaient mitrailler les saints statufiés dans les églises. Or, Jules Durand, lors de la grève des charbonniers du Havre, dit non, pas de cogne avec les jaunes, pas de cogne avec les forces de police. Donc, c'est plus un anarcho-syndicalisme qui lutte contre le PS de l'époque au Havre qui a tourné kazakh, puisque l'avocat qui va défendre les camarades de Jules Durand, c'est un ancien socialiste, un ancien dirigeant du Parti Socialiste de l'époque, c'est Maître Jean King, un avocat, qui lui va se retrouver adjoint au maire de droite au Havre. Donc je pense qu'au Havre, il y a ce sentiment-là. Il y a ce sentiment que le PS de l'époque est complètement pourri. Et donc, il ne reste plus que l'anarcho-syndicalisme.
Puisqu'on a, là, on a vu, on est plein dans le sujet. Hein, d'après, on va raconter Jules Durand. Puisqu'on a vu un peu le glissement idéologique du socialisme. Comment vous avez travaillé pour ce livre ?
Alors, j'ai regardé déjà l'association des amis de Jules Durand, qui ont fait un travail remarquable, ils ont plein d'archives. J'ai cherché à la BNF les archives de l'humanité, puisque dans le livre d'Alain Scoff, on parlait de l'humanité, mais succinctement. Or, Jean Jaurès, il défend Jules Durand.
C'est celle de Jean Jaurès, l'humanité. Hein,
voilà, d'accord. Voilà, c'est le journal de Jean Jaurès. Et puis les archives de la CGT.
D'accord.
Et puis aussi un historien qui a écrit un sacré bouquin en plusieurs volumes sur le Havre, c'est Le Goy, je le cite dans mes sources, je me suis appuyé sur ça.
Est-ce que là-dedans, lorsque vous faites des tels écrits, est-ce que vous vous en tenez à ce qui a déjà été dit, au document, ou vous extrapolez ? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Par exemple, lorsque vous décrivez la RICS avec Louis Donger, qui va être la victime de cette affaire-là, vous en suivez quelque chose que vous avez lu dans les journaux ou pas ? Ou vous avez quand même un phénomène que vous dites, par exemple, dans l'un, on pense le nez cassé dont l'agresseur était un chien jaune, etc. etc. Alors, en titubant, il passe par hasard près des wagons échoués, etc. C'est vous qui recréez ou vous avez lu ça quelque part ?
Non, j'ai lu ça dans la presse de l'époque du Havre.
D'accord. Ah d'accord, vous avez tout pris.
Oui.
Ah, je vous dis pourquoi, parce que
la presse, réac du Havre, défend le contremaître jaune contre Jules Durand. Donc il cite pas à pas un petit peu comment s'est passée l'agression de Donger.
À l'époque, il y a la presse anarchiste, qui est puissante, hein. Il y a l'humanité. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Et le reste, c'est une presse vraiment aux mains de la bourgeoisie.
Oui, vous avez vu le préfacier qui est Gilles Manseron part d'un journal libertaire que je connaissais pas et donc j'ai pas je suis pas allé chercher des sources parmi ce journal. C'est le libertaire de Sébastien Faure.
Ouais.
Mais bon, j'en ai pas entendu parler et donc j'ai pas fait de recherche par rapport à ça.
Mais le libertaire à l'époque, je sais pas si vous imaginez, était quotidien à une époque, hein, au début du siècle. Hein.
Sans doute.
C'est extraordinaire de prendre longtemps ça, c'est vraiment.
Sans doute, mais même au Havre, c'est un journal
Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que je viens de finir un livre sur, qui est pas trop mal d'ailleurs, publié chez Grasset sur les derniers jours de Drieux-La Rochelle. Donc, on raconte le dernier jour, et la femme qui a écrit ça, au Terret, dit par exemple, ce jour-là, Drieux fit l'amour voluptueusement. Et je me dis, mais comment on peut dans une biographie, savoir qu'il fit l'amour voluptueusement ?
Ouais.
Voilà, c'est nul. Donc, ce serait de l'extrapolation.
Ouais.
Voilà. Bon, alors, on fait une petite pause musicale, hein, et puis on y va, Jules Durand, une affaire Dreyfus, au Havre, 1910-1918. Hein, aux éditions Sileps, Roger Colombier. Merci, Monique.
La ville semble un grand asile dont tout le bonheur s'est vu chassé. Même l'espoir est inutile. Le temps de l'amour est passé. Je ne crois plus aux belles promesses. Ceux qui nous les font n'ont pas de remords. Bien sûr, la vie, ça m'intéresse. Mais pour en jouir, faut être fort. Vaincu, chassé, maudit, tout nous est interdit. Chômeur, 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 mes frères de malheur. La ville semble un grand âge. tout le bonheur s'est vu chasser. Même l'espoir est inutile. Le temps de l'amour est passé. Nous marchons par la ville sans but, vaste nos domiciles, les rues. Quand nous déambulons, le temps nous paraît moins long d'aimer.
On a plein de choses à se dire, donc voilà, on écoutera Fanchon Detmers dans son intégralité, comme on dit, imminemment, sous peu. Alors, Jules Durand, une affaire Dreyfus au Havre, 1910-1918. Alors, bon, on raconte l'histoire ?
On raconte l'histoire.
Voilà. Alors, on est en 1910. Allez-y.
Alors, en 1910, il y a plusieurs ouvriers qui travaillent sur le port du Havre. On dit maintenant des dockers. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore comme ça. Il y avait le haut du gratin des dockers qui, eux, transportaient les matières nobles, des bateaux sur le quai et des quais sur le bateau. Et en fin de course, au plus bas, il y avait les charbonniers. Les charbonniers, c'était eux qui chargeaient les soutes des paquebots et des cargos et qui déchargeaient le charbon qui venait du pays de Galles. Déjà, cette concurrence entre la Grande-Bretagne et la France au sujet du charbon qui était moins cher que le charbon français. Et donc, si tout le monde est syndiqué à la CGT, les charbonniers, il y en a qu'une dizaine qui sont syndiqués, mais c'est plutôt un syndicat qui est une amicale qu'un syndicat de lutte et de classe. Et Jules Durand, en devenant charbonnier, va faire de ce syndicat des charbonniers un syndicat de masse, de lutte et de classe. Alors il est mal vu par ses camarades de la Bourse du Travail du Havre, parce que la majorité des charbonniers est analphabète, ou alors ils savent très peu lire et écrire. Mmh. Ils sont alcooliques, ouais. À 90%, risques, et puis ils vivent dans des taudis. C'est vraiment la sous-classe du prolétariat.
Là, c'est ce que vous décrivez. On n'est pas sorti du monde de la Semoire, de l'Émile Zola. On est encore très fin 19e.
On y est parce que le département de la Seine-Maritime est le deuxième département alcoolique de France. Je donne dans mon livre le nombre de litres d'alcool. Mmh. Alors le nombre de litres d'alcool qui est connu par l'État, puisqu'il y a une taxe, mais il y a aussi le litre d'alcool frelaté qui n'est pas connu, mais c'est extraordinaire, quoi. Il y a un bistrot chaque 100 mètres.
Voilà, vous citez une rue, c'est très marrant, mais c'est très tragique aussi. Ouais. Il y a 35 débits de boissons sur 63 numéros.
Voilà. Donc, ces charbonniers vivent là.
D'accord. Donc, c'est un monde où l'alcool est un fléau. Il faut dire qu'aussi, l'alcool est maîtrisé par les patrons, parce que le patronat a intérêt.
Voilà.
Est-ce que le...
Oui, le patronat portuaire du Havre instaure la pause apéritif. Comme les charbonniers vivent complètement toujours dans les soutes, à charger, à décharger le charbon, il n'y a aucune aération dans les soutes, ils doivent boire, et donc le patron permet une pause apéritif de 11h jusqu'à midi. Les charbonniers sortent de leur soute pour aller boire dans les bistrots tenus par les patrons ou par leurs...
C'est-à-dire que la paye revient au patron.
Voilà.
Ouais.
Et en plus, la paye, les journaliers, les charbonniers reçoivent leur paye dans les bistrots.
C'est ça.
Donc, voilà. Je veux dire, c'est un cercle fermé.
D'accord. Donc, ça, c'est le prolétariat. Mortalité infantile, il y a un enfant sur quatre qui passe pas les un an, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, ouais. Et mortalité infantile, bon, il y a aussi les crimes. Hein.
Tuberculose ?
Tuberculose affreuse.
Prostitution ?
Prostitution, puisque les femmes de charbonnier disent, bon, moi, je me prostitue, donc il y a... Et donc, et voilà, c'est le lumping prolétariat.
Et illettrisme
Oui, voilà, illettrisme, surtout, oui. Et donc, Jules Durand s'attache, lui, à faire de cette masse-là un syndicat de masse de lutte de classe, puisqu'il va syndiquer, plus de 600 charbonniers, en très peu de temps.
Lui, anti-alcoolique.
Alors lui, voilà, c'est ce que je dis, lui, c'est ce qui m'a surpris aussi. Lui, il fait partie de la ligue anti-alcoolique. Alors, il y a plusieurs ligues anti-alcooliques au Havre. Hein. Il y a les ligues catholiques, la ligue protestante. Il y a une ligue aussi, c'est quelques instituteurs qui fondent cette ligue-là, mais ça marche pas beaucoup. Et puis, il y a la ligue anti-alcoolique, prônée par la CGT. La CGT, à cette époque, au niveau confédéral, voit que l'alcool détruit l'esprit de la classe ouvrière et donc fait tout pour détruire cet alcoolisme. Et donc, au Havre, à cette bourse d'une travail, se crée une ligue anti-alcoolique de la CGT, qui s'appelle, je ne me rappelle plus quoi, j'en parle dans mon livre.
Donc lui, Jules Durand, est très mal vu parce qu'il ne picole pas.
Voilà.
Il est lettré.
Voilà. Il est lettré parce que son père est un ouvrier charbonnier.
Voilà.
Et son père fait tout pour le sortir de cette misère. Donc il se marie avec sa première compagne. Et lorsqu'il se marie, il est brûlier cellier. Donc c'est un futur artisan. Et son père fait tout pour pas qu'il soit charbonnier. Les témoins à son mariage ne sont pas des charbonniers. Mmh. C'est son oncle qui est un commerçant, c'est son oncle qui est un petit patron, donc voilà. Mais lui, ça lui plaît pas. Lui, il veut côtoyer la classe ouvrière, il veut défendre le sort de son père et le sort des charbonniers.
Donc, et par rapport à ce prolétariat, disons, progressiste, existe une autre forme beaucoup plus réactionnaire du prolétariat qui est prêt à tout pour subsister, quoi.
Ben oui, parce que la misère est effroyable. Bon, à vrai, je ne m'appelle plus le salaire moyen, mais en plus, puisqu'on est dans l'actualité par rapport au contrat de travail
que le
gouvernement veut faire exploser, il faut savoir que les charbonniers, la grosse majorité des charbonniers, est intérimaire. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent que si le patron a besoin d'eux.
D'accord. Par contre, il y a un tout petit détail sur le prolétariat qui est très intéressant, ça vous allez expliquer, parce que c'est ce qu'on appelle du cynisme, c'est ce qu'on appelle la retraite des morts.
Oui, parce que lorsque Jean Jaurès était d'accord avec cette retraite qui est votée pour 60 ans.
65 ans.
65 ans, exact, oui, 65 ans. Mais pour la CGT, 65 ans, déjà, on est mort. Donc la CGT considère que c'est un acquis, puisque avant il n'y avait pas du tout de retraite, mais partir à 65 ans en retraite, c'est rentrer dans le cimetière. Quoi.
L'espérance de vie chez les hommes, c'est 49 ans.
C'est 49 ans. Voilà,
et chez les femmes, 52 ans.
Voilà.
Et on donne une retraite à 65 ans.
Voilà.
Et qui n'est pas réversible sur la veuve ou sur le veuf.
Voilà, voilà.
Oui.
Voilà.
Donc c'est quand même du cynisme.
Cynisme, oui.
À l'état
mais avant la grève des charbonniers au Havre, il y a la grève générale des cheminots en octobre 1910. Mmh. Et là aussi, les cheminots, qui sont une corporation qui est régente sur toute la France, réussissent à avoir quand même une retraite pour les veuves. À 50 ans pour les roulants et à 55 ans pour les sédentaires.
D'accord.
Il faut pas croire que même pour les cheminots, lorsque le gouvernement lâche la retraite à 50 ans pour les roulants et 55 ans et 60 ans pour les sédentaires, c'est pas parce qu'ils ont été gentils, c'est parce qu'ils ont fait grève durant le mois d'octobre, une grève qui est réprimée par le gouvernement de l'époque.
C'est quand même très important que cette affaire se passe au Havre. C'est quand même c'est un port avant toute chose.
C'est un port et c'est le premier port qui ouvre sur l'Afrique et les Amériques.
Et là, on va y introduire un élément, c'est un appareil ou une machine qui va absolument déstabiliser le monde ouvrier.
Voilà, c'est la machine Clark d'un industriel anglais, c'est-à-dire c'est une sorte de tapis roulant. Qui fait que le charbon sort des bateaux sur le quai, quitte après que les charbonniers le mettent dans des sacs pour le charrier plus loin. Et donc, Jules Durand, lorsqu'il monte son syndicat va voir le patronat portuaire et lui dit, bon, on est d'accord avec cette machine Clark, vous voyez que c'est pas entièrement un anarchiste pur et dur, parce que dans la CGT de l'époque, il y avait Pouget, qui était un secrétaire confédéral de la CGT, qui lui promène le sabotage. Tandis que Jules Durand, il va avec son syndicat, il va trouver le patronat, il dit bon, on mettra en route cette machine de Clark que si à cause de la marée ou pour un incident majeur, un paquebot ou un cargo ne peut pas prendre la mer. Ou alors l'inverse.
D'accord.
Voilà. Malheureusement, le patron en profite pour faire une cabale et met en marche cette machine Clark pour déstabiliser le syndicat.
Donc ça va amener une grève ?
Ça va amener une grève, puisque la grève commence au mois d'août. Je regarde mes sources, oui. Le syndicat se forme au mois de juillet. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'on crée un syndicat, on doit déposer le nom de ses dirigeants et l'adresse avec les statuts à la mairie. Et le maire a obligation d'en informer le préfet, qui lui-même en informe le commissaire de police. Au Havre, en plus, il y a un commissaire général de la sûreté qui est chargé de surveiller le mouvement ouvrier. Et en plus, le maire, comme c'est un maire réactionnaire, comme dans beaucoup de communes de France, avise les patrons locaux qu'un syndicat s'est créé. Donc je veux dire, tout ça fait quand même du mal au syndicat de Jules Durand.
Faut dire, petite parenthèse, Aristide Briand prônait la grève générale. Oui, en plus, oui, au niveau, oui, du cynisme, il a prôné la grève générale.
Absolument. Absolument. Voilà. C'est bien ce que je dis, c'est que cet anarcho-syndicalisme lutte plus contre les traîtres qui ont trahi la classe ouvrière, donc Briand et donc l'avocat Jeannequin du Havre qui va passer maire adjoint de maire de droite, que contre le Parti Socialiste, que contre Jean Jaurès.
Donc il y a une... On fait aller à tout va la machine Clark, si j'ai bien compris. Il y a une grève qui éclate, et par rapport à cette grève, il y a ce qu'on va appeler des renards qui vont se constituer. Des jaunes ou des renards.
Alors, les renards, c'est la presse réactionnaire qui emploie ce terme-là. Mais il y a un syndicat qui s'appelle le syndicat des jaunes, c'est son titre officiel.
Ah, c'est terrifiant, ça. Ah, c'est syndicat des jaunes.
Oui, c'est syndicat des jaunes. Ça provient d'une mine, d'un conflit dans les mines, je ne me rappelle plus dans quelle région, d'un conflit dans les mines. Et donc, les non-grévistes de l'époque se réfugient dans un local, et les grévistes de l'époque brisent les vitres de ce local avant que la police n'intervienne. Et ces non-grévistes, pour se parer du froid, mettent du papier journal jaune de l'époque aux fenêtres.
Ah, d'accord.
D'où vient, voilà.
D'accord. Là, je vais vous lire rapidement parce que c'est assez confondant et puis ça a quand même une vision. Enfin, alors, on en parlait sur les années 30 et sur les années 40. Le syndicalisme jaune, dénommé aussi celui de la droite prolétarienne.
Oui, voilà.
C'est très d'actualité, tout ça.
Ah, oui, avec Le Pen, oui.
Ah, oui, complètement. Se fonde en France sous l'égide de Pierre Bietri. Il veut réaliser la renaissance nationale en créant la réconciliation des classes sur un programme de justice sociale.
On est en plein dans les thèses de... Marine Le Pen, et on est en plein dans les thèses de Philippe Pétain.
Complètement, complètement, avec la négation de la lutte de classe,
voilà.
Bien sûr. Alors, travail, famille, patrie ne date donc pas du régime de Vichy, puisque selon son fondateur, capital et travail sont dans une inséparable communauté d'intérêts. Voilà. On est en plein dedans. Il a mal fini, d'ailleurs.
Oui, il devient patron.
Il devient patron, mais il meurt, je ne sais pas
trop. Il meurt assassiné par un ouvrier, je crois que c'est au Vietnam,
ouais.
En Indochine à l'époque, c'est un ouvrier qui le tue.
D'accord. Donc, il y a cette machine claque qui tourne, on est au Havre, c'est un port très, très, très actif, le Havre. Hein. Et donc, il y a ce syndicat jaune qui va se constituer.
Qui est déjà.
Et on tombe sur ce fameux soir de Rix, c'est ça ?
Voilà.
Voilà. Petite parenthèse, effectivement, l'accusation comme quoi les gens des syndicats vont en découdre avec les jaunes est une chose qui est vraie. Moi, je peux vous dire que mon grand-père était terrassier. Il avait encore dans sa bouche, dans les années 70, il disait on allait foutre un chantier en l'air où il y avait des jaunes.
Oui,
ça,
oui.
C'était vraiment l'action. Ça a toujours été vrai, ça.
Oui. Hein? Mais lorsque j'ai mené une grève en 1986 où j'ai fait occuper le dépôt de Mantes avec la CFDT et les autonomes, on avait fermé tout le dépôt de manière que les jeunes ne puissent pas travailler. Donc j'étais après puni pour entrave à la liberté du travail.
C'est notre problème. La machine Clark tourne, il y a des grèves, il y a des jaunes qui sont là. On va même en chercher à l'étranger, des jaunes.
Oui, alors on a fait venir des Bretons. Puisque il y a une immigration bretonne qui est importante dans le Havre. Mais les Bretons, qui sont français, mais qu'on ne considérait pas comme français, puisqu'ils ne parlent très peu le français, prennent fait et cause pour les ouvriers du Havre. Donc on oublie les Bretons et on fait venir les jaunes, qui sont déjà sur place et d'ailleurs, et on fait venir aussi des Britanniques.
D'accord. Donc il y a tout un climat comme ça qui est assez délétère. Mmh. Et je réitère, plus l'alcool par-dessus.
Plus l'alcool, voilà.
Et on va arriver à la fameuse Rix.
Voilà.
On fait une pause ?
On fait une pause.
Voilà.
Je l'ai fait.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on l'on traque, c'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Sans la nommer, une chanson de Georges Moustaki qui là a été interprétée par Fanon Desmers. Sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez Onde de choc.
Roger Colombier, Jules Durand, une affaire Dreyfus au Havre, 1910-1918 aux éditions Sileps. Alors, on arrive à cette fameuse... ça se passe le soir, la nuit ?
Ça se passe la nuit. Il faut dire que les non-grévistes restent à bord des bateaux pour travailler plus que prévu. Et donc, Donge, lui, il est contremaître, il est chef d'équipe. Donc, il est déjà un peu haut dans la hiérarchie des charbonniers. Donc, lui, il ne rentre pas chez lui, il dort dans le bateau, et il boit, bien sûr, parce qu'il travaille le charbon, et il est soumis aux mêmes conditions de travail que l'ensemble des charbonniers. Donc, il boit beaucoup, c'est un alcoolique accompli. Il va souvent se frotter dans les barlouches du Havre. Et donc, il est ivre, il sort du bateau pour aller faire un tour ou pour encore se saouler plus, on ne sait pas. Et pour son grand malheur, il passe devant un wagon abandonné du chemin de fer où là se trouvent trois grévistes qui, eux, sont aussi passablement ivres. Et Jules Donge avait fait l'acquisition avant cela d'un pistolet dans un bar d'Ilouche où c'est que se côtoient les déserteurs, les malfrats et tous les bandits du Havre. Il fait acquisition d'un pistolet et il se promène avec sans le montrer. Et là, il passe pour son plus grand malheur devant ce wagon abandonné où sont trois charbonniers grévistes qui vont passer la nuit là, puisque une grande partie des charbonniers ne vit pas dans les taudis du Havre, vit dans des abris de fortune, dont les wagons abandonnés sur le port du Havre. Et donc, un mot, on en ajoute un autre, et puis voilà, et puis on se tape dessus. Donc, je suis reconnu comme le contremaître des jaunes par l'un des protagonistes, et là, il sort son pistolet. Puisque la bagarre devient de plus en plus dure, il sort son pistolet sans tirer sur personne, et puis il part. Alors, les autres pensent à le poursuivre, mais entre-temps, ils pensent qu'il faudrait aller boire un coup pour donner des forces. Et donc, ils vont... Ah oui, parce que Donge frappe le nez sur d'un des grévistes et le nez saigne abondamment. Donc, les trois grévistes pensent aller dans le premier troquet qui va se présenter pour se faire soigner déjà, pour boire un coup. Et pour se donner des forces pour poursuivre Donge. Et là, on boit encore plus dans ce bistrot. Le groupe devient plus étoffé et on songe à poursuivre Donge.
D'accord.
Et malheureusement, comme Donge, il est lui aussi a fait la tournée de quelques bistrots. Il est encore plus ivre que lorsqu'il a rencontré les grévistes. Et donc, on se retrouve en pleine nuit dans les rues du Havre où c'est que là. Que Donge subit les coups des grévistes.
Il meurt
à l'hôpital.
À l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va accuser Jules Durand parce qu'il aurait, dans un meeting, dit une phrase ambiguë, entre guillemets, le mot supprimer, il faut supprimer.
Voilà, alors Jules Durand est le responsable du syndicat, c'est-à-dire les frères, je ne m'en rappelle plus le nom.
D'accord, oui.
Jules Durand qui est le secrétaire général, le trésorier du syndicat et le secrétaire adjoint.
D'accord.
Qui, eux, ne sont au courant de rien, puisque eux, c'est des purs syndicalistes de l'époque qui font partie de cette ligue alcoolique et donc qui prennent l'abstinence.
D'accord. Et donc, on va le chercher, et là va commencer une machinerie.
Et donc, on va chercher Durand et ses deux camarades chez eux. Et là commence une machinerie, parce qu'on veut, on veut faire tomber ce syndicat des charbonniers.
On en a besoin qu'il tombe, c'est ça.
On a besoin qu'il tombe, parce que le charbon est le matériau indispensable pour l'époque. C'est lui qui fait marcher les bateaux, c'est lui qui fait marcher les locomotives, c'est lui qui fait marcher les usines, c'est lui qui chauffe les particuliers et les usines. Donc, sans charbon, plus rien ne marche au Havre. Plus rien ne marche au Havre, et puis les locomotives du dépôt ne peuvent pas partir sur Paris.
D'accord.
Donc cette grève-là est importante pour les amateurs et pour les patrons.
Donc on a une victime et on a un innocent total. Là, il n'a absolument rien à voir avec cette affaire-là.
On a un innocent total. D'ailleurs, j'ai dit qu'au Havre, il y a un commissaire de la sûreté, hein, c'est-à-dire qui est chargé d'infiltrer et de surveiller le mouvement ouvrier, soit par des indicateurs, soit par des mouchards. Mmh. Et dans ces rapports...
Enfin, tout le mouvement ouvrier, à l'époque, est infiltré par des mouchards. Hein.
Oui, oui,
c'est
oui.
Quelque chose qui vient du 19e siècle, de Napoléon III. Voilà. On a infiltré.
Ouais, voilà, oui. voilà. Oui. D'ailleurs, dans les archives, j'ai découvert une lettre de 1913 d'un commissaire général du Havre. Bon, c'est pas 1910, mais en 1913, le dit commissaire parle du fonctionnement de la Bourse du Travail du Havre de A à Z. Mmh.
Donc,
oui, donc ils sont informés de ce qui se passe. Et donc, malgré qu'en 1910, ce commissaire général de la Sûreté fait un rapport à décharge contre Jules Durand, qui remet au juge d'instruction, et il plaide même devant la cour d'assises en disant qu'aucun de ces indicateurs, ni aucun des policiers infiltrés lors des meetings où Jules Durand préside, Jules Durand n'a prononcé des mots contre les non-grévistes, au contraire. Puisque dans les différents meetings, Jules Durand prône la non-violence.
Non-violence. Quand il est arrêté, il croit que c'est une affaire de c'est une méprise, ça va durer quelques jours, il va être libéré.
Jules Durand pense, depuis son arrestation jusqu'à la cour d'assises, que la justice des hommes de l'époque est une justice honnête.
D'accord.
Et donc, lorsque
c'est quand même un naïf. Hein,
voilà, oui, c'est un naïf. C'est un naïf.
Alors, on va faire vraiment, parce qu'il y a un sous-titre à votre livre, hein, c'est Jules Durand, une affaire Dreyfus au Havre.
Oui.
On sort de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est vieille de 12 ans à peine.
Oui, c'est ça, oui. C'est la fin du 19e siècle. Oui.
Voilà. Mais c'est quand même pas le même sujet.
C'est pas le même sujet, parce que si on connaît l'affaire Dreyfus, le capitaine Dreyfus, il est de confession israélite, il est accusé d'intelligence avec l'Allemagne, donc il est condamné aux travaux forcés, il n'est pas condamné à mort.
Ouais.
Il est condamné aux travaux forcés, parce qu'il fait quand même partie de la bourgeoisie.
Vous savez, c'est un phénomène de caste. Oui,
oui. Oui. Il est condamné aux travaux forcés, et lorsqu'il est gracié, il est remis dans ses droits. C'est-à-dire qu'on lui rend sa Légion d'honneur, on lui rend sa retraite, on lui rend son grade.
Vous savez qu'il aurait eu cette phrase pas très spirituelle après tout ce qui est arrivé. Il aurait dit « il n'y a pas de fumée sans feu
». Non.
C'est quand même quelque chose qui le rend pas très sympathique. Ouais. Hein.
Et donc la Ligue des droits de l'homme la Ligue des droits de l'homme se forme justement pour défendre le capitaine Dreyfus.
En 98, c'est
voilà, ça. Voilà, 98. Et la Ligue des droits de l'homme, qui est dirigée en 1910 par un député jaurétien, c'est de Pressanger.
Sébastien Faure est un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme, non?
Je crois.
Oui, je pense que oui. Oui.
Et donc la Ligue des droits de l'homme dit qu'en plus on doit aussi défendre les ouvriers. Mais la Ligue des droits de l'homme arrive quand même d'un milieu bourgeois, même si c'est la bourgeoisie dite éclairée. Mmh. Et donc il y a très peu d'ouvriers parmi ces rangs, sauf Jules Durand. Mmh. C'est là aussi une exception à la règle.
Ah oui, donc il est syndicaliste, Ligue des droits de l'homme,
oui.
Anti-alcoolique,
oui,
alors, quand même lettré.
Oui, alors beaucoup, il est à la Ligue des droits de l'homme parce qu'à l'époque, ce que le syndicalisme a un petit peu perdu actuellement en 1947, lorsque les enseignants quittent la CGT, c'est que les enseignants de l'époque donnent des cours dans les bourses du travail. C'est-à-dire des cours de français, d'écriture, des cours de mécanique. Ils ouvrent des bibliothèques. Mmh. Et donc, Jules Durand découvre, grâce à ses enseignants qui font partie de la Ligue des droits de l'homme, Proudhomme, un petit peu moins Marx, mais enfin, tous les révolutionnaires de l'époque.
C'est ce qu'on appelle les universités populaires.
Voilà, c'est une université
populaire. Et qui tiennent donc dans les bourses du travail.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Et donc, Jules Durand participe à ces universités populaires, ce qui va induire un désamour avec sa première compagne, parce que syndicaliste, Ligue des droits de l'homme, les cours du soir, l'université populaire, il rentre de plus en plus tard chez lui, et un jour il rentre, sa femme est partie ailleurs.
D'accord. Donc, la machine judiciaire est partie.
Voilà.
Il reste au Havre en prison.
Alors, il reste au Havre en prison et là, stupéfaction dans mes recherches, c'est que l'anarcho-syndicalisme qui dirige la Bourse du Travail du Havre, c'est qu'au lieu de prendre un avocat proche de leur idée ou proche des oui, idées de
et pourquoi ils font ça,
la CGT, c'est la question que je me pose. J'en ai discuté avec des historiens qui, eux, sont patentés, le contraire de moi. Mmh. Ils pensent qu'ils préfèrent prendre des gars de droite pour se faire mieux voir des patronats locaux.
Il prend René Coty, c'est ça ?
Alors, il ne prend pas René Coty, c'est la Bourse du Travail
qui lui
alloue René Coty.
Le futur président du Conseil.
Et premier et président de la République.
Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est non, ça. Non. Oui, oui, oui.
Président de la République de droite.
De droite.
Qui ne fera rien lorsqu'il est président de la République pour mettre Jules Durand au clair.
D'accord.
Et donc, ils prennent René Coty. Alors, René Coty, c'est un élu de droite au Havre. Il est conseiller d'arrondissement. C'est un petit peu le genre de conseiller départemental, hein, un petit peu moins. Il est aussi marié avec la fille d'un des plus grands armateurs du Havre. Donc, il est quand même connu. Et les deux camarades de Jules Durand sont défendus, eux, par Maître Jeannequin, qui est un ancien socialiste, un ancien dirigeant du socialiste, qui a viré Kazak et qui est passé maire adjoint de droite à la mairie de droite. Donc, ça m'a un petit peu surpris qu'à l'époque, la CGT avait déjà des avocats pour le défendre, pour se défendre, prennent oui, des avocats connus à droite.
Donc, ils ont préféré prendre, des bourgeois pour les défendre.
Des réactionnaires, il faut dire le terme.
C'est très bizarre, c'est très 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 bizarre.
Oui, oui, c'est une surprise, ça a été une surprise totale pour moi.
Donc, on va voir là l'exemple qui va se dérouler. L'exemple même, ce qu'on appelle une justice de classe.
Une justice de classe qui a toujours existé depuis que la lutte des classes existe.
Bien sûr. Donc, il va être... ça dure combien de temps, ce procès ?
Je crois qu'il doit durer 6 jours
ouais.
ou 5 petits jours. Alors, à l'époque, le fonctionnement de la cour d'assises n'est pas le même qu'actuellement. Actuellement, dans la cour d'assises, les magistrats professionnels siègent pour délibérer avec le jury dit populaire. Mmh. Du temps de Jules Durand, le jury populaire... dit si le prévenu est coupable ou pas, et c'est les juges professionnels qui après alignent leur sentence par rapport à ce qu'a dit le jury.
D'accord. Donc, c'est surtout Jaurès qui prend position pour lui, c'est ça ?
Jaurès, dès le premier jour que Jules Durand est condamné à mort, le lendemain, l'Humanité titre Jules Durand innocent, et puis la CGT sort une affiche où c'est que justement, elle parle en conclusion, je vais vous lire l'article, alors, pour Durand, ce qui a été possible pour le capitaine Dreyfus doit l'être pour l'ouvrier Durand.
Ah oui, j'ai
Durand.
Vu ça, oui. Hein, ouais,
voilà.
Vu ça.
Donc c'est de là qu'on parle de l'affaire Dreyfus.
D'accord. Petite parenthèse très vite fait, ça c'est votre avis à vous. Il y a un côté mystique et chrétien chez Jaurès ou pas ? Vous connaissez mieux que ça que moi le sujet. Moi j'ai toujours l'impression qu'il y avait un côté assez chrétien.
Moi je pense que oui. Je pense qu'il est peut-être comme Victor Hugo.
Oui c'est ça, il y a un côté chrétien derrière.
Il est sans aller chaque jour à la messe, il y a quand même un esprit divin, comme Robespierre. Qui lui pensait un être suprême.
Pourquoi la sentence, c'est quand même la sentence majeure, c'est quand même la peine de mort. On aurait pu le déporter, on aurait pu le...
Oui.
Filer 15 ans de prison ou 30 ans.
Ben, il faut dire que le jury de l'époque, c'est un jury qui est trié sur le volet. Hein. On n'est pas comme actuellement où c'est qu'on est tiré au sort dans les conseils municipaux. Hein. On est tiré au sort, mais en dernier ressort, il y a le préfet et les notabilités du coin qui disent, bon, celui-là on le prend, celui-là on le prend pas. Et donc, surtout les jurés qui vont juger Jules Durand, il y a un seul ouvrier.
D'accord.
Le reste, c'est des notables.
Donc ça, c'est le premier scandale, un scandale qui est très lourd. Et il y a un deuxième scandale, alors, selon moi, c'est-à-dire que il n'y a aucune mobilisation, ou presque, d'intellectuels par rapport à l'affaire Durand.
Non, il y, y en a très peu. Il y a Anatole France, quand même, qui est quand même un intellectuel connu, et quelques autres. Mais ceux qui ont défendu le capitaine Dreyfus sont retournés dans leur camp.
C'est ça.
Donc c'est d'ailleurs, l'Aurore qui a défendu Dreyfus par la plume d'Émile Zola, donc j'accuse, l'Aurore est un journal anti-Jules Durand. Mmh. Forcené même. Dans ses écrits, ils sont anti.
Oui, j'ai vu ça, vous avez
Jules Durand. Mmh.
Et ce qui est très drôle, c'est que quasiment le seul intellectuel qui va prendre position, c'est Jules Durand. Voilà. Et que on est en 10, 20 ans plus tard, ou un peu moins 20 ans plus tard, lorsque les surréalistes vont essayer de rejoindre le mouvement ouvrier, le premier bouc émissaire qu'ils vont prendre, ça va être Anatole France. Mmh. Donc il y a une grande contradiction dans le mouvement des idées. Comment les intellectuels arrivent ou pas à chevaucher ce qu'on appelle le mouvement ouvrier, quoi.
C'est tout le problème que l'on connaît actuellement aussi en France. Moi, je lis la presse bourgeoise et la presse révolutionnaire. Enfin, celle qui reste, il y en a quand même très peu. Mais je vois que les élites intellectuelles de France ne prennent pas position contre le gouvernement actuel.
Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission-là, parce que moi, je la trouve, il y a plein de points qui sont extrêmement d'actualité.
Oui.
Voilà.
Moi, je discute avec, maintenant, je discute depuis que je fais partie de l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT. Dans cet organisme, il y a des historiens et des chercheurs qui ne sont pas membres de la CGT, qui sont quand même proches de la classe ouvrière. Et je discute avec ça, sur ce problème-là. Et puis, ils disent, mais c'est les idées majeures de la pensée unique qui passent dans les intellectuels français. Hein. Mmh. Même ceux qui, pendant un temps, se considéraient à gauche. Ils pensent à tort que le code du travail, c'est un coup pour le patronat. Je veux dire, on revient à l'arrière, là.
Alors, ce qu'on va faire, on va réécouter, et puis on va finir, on va à la fin de Durand, qui est le troisième scandale. Alors, il y a eu le scandale de la condamnation, le scandale des intellectuels, et puis la chute est quelque chose de pas mal non plus. Merci, Monique.
Tout à perdre, rien à gagner, c'est le règne des résignés. Et c'est pourquoi on va crever dans la chambre à gaz des banquiers. C'est la débine et la combine, chacun pour soi, telle est la loi. Et c'est pourquoi on va crever dans la chambre à gaz des banquiers. Où sont l'amour et l'amitié, mort et la solidarité? Et c'est pourquoi on va crever dans la chambre à gaz des banquiers. Pas de budget pour les écoles, les hôpitaux, car nos impôts vont financer les escaliers vers la chambre à gaz des banquiers. C'est la guerre des voisins de palier, tout est prétexte à se flinguer. Qu'importe, puisqu'on va crever dans la chambre à gaz des banquiers. Pour se venger de leur lâcheté, ils attaquent les étrangers. Mais c'est ensemble qu'ils vont crever dans la chambre à gaz des banquiers. L'argent fout le camp si vous pensez que pour autant la vie s'en va. Vous gagnerez de quoi crever dans la chambre à gaz des banquiers. Pourtant le soleil de la vie continue à nous éclairer. C'est pas le moment de crever dans la chambre à gaz des banquiers.
vrai vice, la gratuité. Je veux plus payer pour engraisser ceux qui pensent nous envoyer dans la chambre à gaz et banquier. L'argent qui tue va les tuer. Il n'y aura qu'à les pousser pour qu'ils achèvent de crever dans leur chambre à gaz de banquier.
La rengaine des résignés, une chanson, enfin un texte au moins de Raoul Van Eghem, interprété par Fanchot des Berces sur Radio Libertaire 89.4, et vous écoutez toujours Onde de Choc.
Et ben toujours avec Roger Colombier, Jules Durand, une affaire dressue au Havre, 1910-1918. Vous vouliez dire...
Oui, par rapport à l'Humanité et le journal de Jean Jaurès, dès que Jules Durand est condamné, l'Humanité du lendemain sort en sa une l'affaire d'Angers aux assises. D'Angers, c'est le contremaître qui est assassiné. Un verdict de haine. Durand, secrétaire du syndicat, est condamné à mort pour complicité morale. Vous voyez, déjà, dès le départ, l'Humanité prend fait et cause pour Jules Durand.
Vous me montrez, hors antenne, à la page 67, la tête de Durand. Il est très beau avec ses moustaches, c'est ça. Et ce qu'on a en couverture, c'est le bagnard digne de ce qu'on voit dans les caricatures de Biribi. Là, on
voilà,
est...
voilà. Il est, c'est la photographie qui est prise lorsqu'il sort de la prison de Rouen.
Donc on a commencé l'émission en parlant de Blanqui l'enfermé. Alors ça, je conseille à tout le monde, Gustave Geffroy, car c'est vraiment un chef-d'œuvre, aux éditions de L'Armourier. Effectivement, on en parlait, Blanqui a fait 43 ans de cabane, et on s'aperçoit que les conditions, c'est un truisme pénitentiaire de l'époque, c'est atroce, c'est absolument atroce. On est aux limites de l'humain, là. Mais on s'aperçoit aussi qu'avec Jules Durand, on ne s'est pas amélioré.
Non. Non, parce que ce capuchon belge...
Alors allez-y, parce qu'il y a une photo, allez-y.
Ce capuchon belge...
Le capuchon d'étamine, c'est ça?
Alors c'est un capuchon, oui. Oui, tous les condamnés à mort doivent l'avoir dès qu'ils sortent de leur cellule. Donc ils sont menottés mains et pieds. Ils ont ce capuchon sur la figure, sans ouverture sur les yeux, dès qu'ils sortent de leur cellule, pour aller au parloir, pour aller à la messe pour ceux qui y vont, pour aller se restaurer, pour aller se nettoyer, pour aller voir le docteur, pour pas, soi-disant, contaminer les autres prévenus, les autres condamnés. Alors, je veux dire, c'est un système très dur. Hein.
Ça, c'est pour la prison seulement.
C'est pour la prison.
La prison. Ouais. Donc, il est en prison, et le mouvement social va quand même continuer.
Oui, oui, oui. Le mouvement social va continuer et va s'amplifier. D'abord au Havre. Même les syndicats du port qui, au départ, considéraient les charbonniers comme les moins que rien, prennent fait et cause pour le syndicat des charbonniers. Et donc va se créer un petit peu plus tard le syndicat unique des dockers du Havre.
D'accord.
C'est un point positif pour la classe ouvrière au Havre, ça.
Donc on va essayer de faire réviser le procès.
On va essayer de faire réviser le procès. On y arrive avec moult manifestations en France. Donc, notamment en région parisienne, moult meetings aussi, puisque Léon Jouot, qui est le secrétaire général de la CGT à l'époque, tient un meeting au Havre même, et tient aussi un meeting à Paris. Et dans beaucoup de grandes villes de France, les dirigeants de la CGT tiennent un meeting. Et il y a des collectes qui se font dans toutes les bourses du travail de l'époque pour justement payer ces meetings, puisqu'il faut les payer. Donc il y a une solidarité importante. Il y a aussi les ports qui entourent le Havre qui se mettent en grève. Il y a des grèves de solidarité en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne. Et il y a aussi les mécaniciens qui conduisent cette fameuse machine Clark qui se mettent en grève aussi pour pas que la machine Clark marche.
Et ça va monter à l'Assemblée, tout ça, c'est ça?
Et ça va monter à l'Assemblée nationale par la voix de Jean Jaurès, ouais, et de Paul Meunier.
De Paul Meunier, surtout, qui va...
Qui, lui, n'est pas un socialiste, c'est un radical socialiste. Un petit peu la tendance démocrate chrétienne que l'on connaît actuellement.
D'accord. et qui va réussir à un moment donné.
Et lui, Paul Meunier, comme il n'est pas situé à l'extrême gauche comme l'est le Parti socialiste de l'époque, il est quand même, et comme le gouvernement qui est au pouvoir à cette époque-là est un gouvernement radical socialiste de la tendance donc de Paul Meunier a porte ouverte au cabinet des ministères et à la présidence du conseil. Il est porteur d'une pétition de 150 députés.
D'accord. L'affaire a lieu en 1910.
Voilà.
Et ça met combien de temps là, pour arriver à la révision du procès ?
Malheureusement, pour Jules Durand, en 1914, la CGT trahit, puisqu'elle s'engage dans l'Union sacrée avec le patronat et la droite au gouvernement pour entrer dans la boucherie du premier
c'est
conflit
ça.
Mondial.
On trahit Jaurès.
Dès que Jean Jaurès est assassiné, Jouot, qui est secrétaire général de la CGT, devient commissaire du gouvernement à Véran de ministre.
Il y a une trahison totale de la CGT.
Et donc, on oublie Jules Durand, sauf une partie infime de la CGT autour de Monat et de la vie ouvrière, qui est de tendance
narco-syndicaliste. Hein,
qui, eux, défendent Jules Durand, mais on est dans la Première Guerre mondiale et donc ils sont inaudibles.
D'accord. Donc il faut attendre combien de temps pour que le procès
soit réalisé ? Alors, il faut attendre 1916, où les socialistes de l'époque quittent le gouvernement. Il y a des mutineries au front, il y a des grèves dans les usines d'armement, notamment conduites par les femmes. C'est une première en France que les femmes conduisent les grèves. Et donc,
petite parenthèse sur les femmes, effectivement, là, parce qu'on est là, il y a une grève des ménagères au Havre.
Il y a une grève des ménagères et la première épouse de Jules Durand va voir le maire. Elle fait partie d'une délégation des ménagères et elle se présente comme l'épouse de Jules Durand.
C'est très progressiste, ça.
Ah oui, c'est très progressiste.
Et une petite parenthèse par rapport aux femmes, l'épouse de la victime, Donger, oui, va demander la libération de Durand.
Oui, parce que Donger, c'est un abruti fini. Il est alcoolique, mais il tape sa femme.
Hein. Ouais.
Lorsqu'il rentre ivre mort chez lui, il tape sa femme, il tape ses gosses, et donc sa femme en a marre de lui, quoi. Et donc, elle prend en fait cause aussi pour Jules Durand.
Donc, on va arriver à une révision du procès, mais hic de l'histoire, c'est que...
Alors, en 1916, la CGT n'est plus dans l'Union sacrée, même si beaucoup en pensent qu'il faut se battre. Et donc là, la CGT recommence à parler de Jules Durand. Et Paul Meunier en profite aussi à la Chambre des députés pour reparler de Jules Durand.
Mais le comble de tous les scandales de cette affaire, c'est qu'il a sombré dans la folie.
Il a sombré dans la folie parce que Jules Durand pense que la justice des hommes est honnête. Donc, premièrement, il est condamné à mort à la cour d'assises, il tombe en syncope. Et donc, il est transporté sur un brancard menotté, toujours cheville et poignet, dans la prison de Rouen. Là, comme il est condamné à mort, on lui met le capuchon belge sur la tête, donc il, à force, devient fou.
Il devient fou
par les mauvais traitements aussi de l'époque. Lorsqu'on lit les archives de la police et le ministre de la justice, on est un petit peu dans le délire complet. Hein.
À l'hospice civil du Havre, au cours de ses cris, Jules Durand va retrouver la camisole de force. Ça, c'est
voilà.
Et les doses de calmants que la médecine pénitentiaire lui administrait. On pense aussi à cette époque que la position allongée du malade atténuera sa grande agitation.
Voilà.
Ainsi, pour obtenir cette relaxation, Jules Durand va se retrouver attaché à son lit de manière qu'il ne puisse pas se relever.
Voilà. Ce traitement, il avait déjà subi en prison. Là, il est dans un asile. Donc, dans un asile, normalement, il y a des toubis, des infirmiers qui doivent soigner les fous. En prison, c'est des simples gardiens de prison qui font ça. Ils n'ont aucune expérience médicale, mais ils subissent déjà ce traitement. Alors, allongé sur son cravat, il fait sur lui, je ne sais pas, là, vous voyez dans quelles conditions il survit.
Donc, l'affaire éclate en 1910.
Alors,
la révision, c'est 1918.
Il est condamné à mort. Il est condamné à mort.
Ouais.
Et le président de la République de l'époque a le droit de grâce, comme a le président de la République actuel. Et au lieu de le gracier suite aux démarches judiciaires qui se font, au lieu de le gracier purement et simplement, il le condamne quand même à 7 ans de réclusion.
Donc, si j'ai bien compris, il n'est pas amnistié.
Non. Il est condamné à 7 ans de réclusion. Donc là, à 1911. Va commencer.
Ça, c'est absurde, parce que soit il est coupable.
Voilà.
Ou il n'est pas coupable. Voilà.
C'est ce que dit la CGT dans une autre affiche. Ce qui fut fait pour l'officier des refuges devrait l'être pour l'ouvrier Durand. La libération complète et définitive de notre camarade Durand. Puisqu'on va lui faire subir 7 ans de réclusion. Donc cette nouvelle sentence de la justice met encore plus un coup au moral à Jules Durand, qui lui toujours est persuadé que la justice des hommes est une bonne justice.
Donc il meurt en 26.
Il meurt en 26 dans l'indigence complète.
Voilà.
Et ce qui est encore plus triste, c'est qu'il y a bataille entre le département de Seine-Maritime ou la municipalité du Havre et l'État pour savoir qui va payer les frais d'asile.
D'accord. Donc c'est l'exemple type de la justice de classe.
Absolument. Voilà. La lutte de classe entraîne la justice de classe.
De surcroît, une affaire absolument occultée.
Ouais.
Parce que c'est pas le capitaine Dreyfus.
Ouais.
Ça, on peut le dire. Hein, voilà. Donc c'était très bien d'avoir fait cette émission. Pas pour. Alors, j'ai quand même vite fait lire votre dernière page. Là. Tapez erreur judiciaire sur Google et vous ne trouverez pas la moindre trace de la principale erreur judiciaire du XXe siècle. Consultez les meilleurs ouvrages sur l'histoire de la justice en France et vous constaterez que ce fiasco judiciaire est passé sous silence. Relisez les meilleurs écrits sur la peine de mort de Camus à Badinter et vous constaterez que les plus illustres abolitionnistes ignorent le sort réservé aux condamnés à mort, Jules Durand, voilà, etc. Donc ça a été complètement gommé.
Oui. D'ailleurs, il faut rendre hommage à cette association du Havre, voilà, qui fait un travail remarquable pour que l'affaire Durand revienne au jour.
Ben voilà, moi je vous conseille de lire Gustave Geoffroy Blanqui l'Enfermé, c'est absolument superbe. Et puis moi, je conseille aux auditeurs, et puis à vous aussi, Monique, bien sûr, de lire Roger Colombier, Jules Durand, une affaire Dreyfus au Havre, 1910-1918, aux éditions Syllabs. Hein, voilà, merci.
Je vous remercie.
Voilà, j'espère que ça, on arrivera. Et puis, petite parenthèse, le 7, Monique, nous avons rendez-vous, émission sur Benjamin Perret, poète et révolutionnaire. Merci. À bientôt sur Ondes de Choc, Radio Liberté 89.4.
A dû être écrite, je pense, pour que cette petite histoire ne nous arrive pas à nous. L'ancêtre. Notre voisin, l'ancêtre, était un fier galant qui n'emmerdait personne avec sa barbe blanche. Et quand le bruit courut que ses jours étaient comptés, on s'en fut à l'hospice afin de l'assister. On avait apporté les guitares avec nous, car devant la musique, ils tombaient à genoux, excepté toutefois les marches militaires, qu'il écoutait en se tapant le cul par terre, qu'il écoutait en se tapant le cul par terre, disciple de Django et mule de Crolla. Toute la fine fleur des cornes était là pour offrir à l'ancêtre en signe d'affection, en guise viatique une ultime audition, en guise viatique une ultime audition. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus, les guitares sont restées à la porte cochère. Et le dernier concert de l'ancêtre déçu, ce fut un pot pourri de cantique peu cher. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, pas de musique d'orgue, oh non.
pas de chant liturgique pour qui avale sa chique, mais les guitares créent le nom. Mais les guitares créent le nom. On avait apporté quelques litres aussi, car le bonhomme avait la fièvre de Bercy. Et les soirs de Nouba, parole de tavernier, à rouler sous la table, il était le dernier. À rouler sous la table, il était le dernier. Saumur, entre deux mers, Beaujolais, Marsala, toute la fine fleur de la vignette est là pour offrir à l'ancêtre en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime libation. En guise de viatique, une ultime libation. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus. Les litres sont restés à la porte cochère, et le coup de l'étrier de l'ancêtre déçu, ce fut un grand verre d'eau bénite peu chère. Quand nos ancêtres du côté de Bicêtre ne nous faites pas boire au nom de ces eaux minérales bénites ou lustrales, mais du bon vin crénant le nom. Mais du bon vin crénant le nom. On avait amené les belles du quartier, car l'ancêtre courait la gueuse volontiers, de sa main toujours leste, mais digne cependant. Il troussait les jupons par n'importe quel temps. Il troussait les jupons par n'importe quel temps. Depuis Manon Lescaut jusque à Dalila, toute la fine fleur du beau sexe était là pour offrir à l'ancêtre en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime érection. En guise de viatique, une ultime érection. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus. Les belles sont restées à la porte cochère, et le dernier froufrou de l'ancêtre déçu, ce fut celui d'une robe de sœur peu chère. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, pas d'enfant de Marie, oh non, remplacez-nous les nonnes par des belles mignonnes, et qui fument crénant le nom. Et qui fument crénant le nom.
Sur le port de Marseille, le père et le fils se promènent. Et le petit dit à son papa :
Vé, papa, le bateau là-bas, comme il est beau.
Oh, couillon, c'est pas un bateau, ça. C'est un yacht.
Ah, c'est un yacht, papa.
Bon, alors, couillon, si je te dis que c'est un yacht, c'est que c'est un yacht. Hein?
Dis, papa, ça s'écrit comment, un yacht ?
Oh couillon, je crois que t'as raison, c'est un bateau. La marine.
Et comme faisait dire Marcel Pagnol à César, c'est dans la marine qu'il y a le plus de marins. Voilà. Le cocu.
Comme elle n'aime pas beaucoup la solitude, cependant que je pêche et que je m'en oublie, ma femme sacrifie à sa vieille habitude de faire à tout venant les honneurs de mon lit, de faire à tout venant les honneurs de mon lit. Et oui, je suis cocu, j'ai du cerf sur la tête, on fait force de trou dans ma lune de miel. Ma bien-aimée ne m'invite plus à la fête quand elle va faire un tour jusqu'au septième ciel. Quand elle va faire un tour jusqu'au septième ciel. Au péril de mon cœur, la malheureuse écorne le pacte conjugal et me le déprécie. Que je ne sache plus où donner de la corne semble bien être le cadet de ses soucis. Semble bien être le cadet de ses soucis. Les galants de tout poil viennent boire en mon verre. Je suis la providence des écornifleurs. On cueille dans mon dos la tendre prime verte qui tenait le dessus de mon panier de fleurs. Qui tenait le dessus de mon panier de fleurs. En revenant fourbu de la pêche à la ligne, je les surprends tout nus dans leur débordement. Conseillez-leur le port de la feuille de vigne, ils s'y refuseront avec entêtement. Ils s'y refuseront avec entêtement. Souiller mon lit nuptial, est-ce que ça les empêche de garder les dehors de la civilité? Qu'on me demande au moins si j'ai fait bonne pêche, qu'on daigne s'enquérir enfin de ma santé. Qu'on daigne s'enquérir enfin de ma santé. De grâce un minimum, l'attention délicate pour ce pauvre mari qu'on couvre de safran. Le cocu d'ordinaire, on le choie, on le gâte, on est enfin le compte un peu de ses parents. On est enfin le compte un peu de ses parents. À l'heure du repas, mes rivaux détestables trouvent encore ce toupet de laurier ma portion. Ça leur ferait pas peur de s'asseoir à ma table. Cocu tant qu'on voudra, mais pas amphitryon. Cocu tant qu'on voudra, mais pas amphitryon. Partager sa moitié, est-ce que cela comporte que l'on partage aussi la chair et la boisson? Je suis presque obligé de les mettre à la porte, et bien content s'ils n'emportent pas mes poissons. Et bien content s'ils n'emportent pas mes poissons. Bien content qu'en partant, ces mufles ne s'égarent pas à mettre le comble à leur ignominie. En sifflotant, il est cocu le chef de gare, parce que le chef de gare, c'est mon meilleur ami. Parce que le chef de gare, c'est mon meilleur ami.
Jean rentre au village, une chanson de Georges Brassens, bien sûr, qu'il n'a jamais enregistrée, il n'y a que nous qui l'avons fait, il reste, qui risque de vous, peut-être de vous surprendre un peu. Jean rentre au village, son père chercher, le cherche 3 heures, où s'est-il caché? Mais un brave cœur lui dit, ton papa, pauvre petit, il est à l'hospice, le bon Dieu n'est pas gentil. Jean va à l'hospice, son père chercher, le cherche 3 heures, où s'est-il caché?
Mais un brave cœur lui dit, ton papa, pauvre petit, l'est déjà ton morgue, le bon Dieu n'est pas gentil. Jean s'en va ton morgue, son père cherché, le cherche 3 heures, où s'est-il caché? Mais un brave cœur lui dit, ton papa, pauvre petit, l'est déjà ton bière, bon Dieu n'est pas gentil. Jean s'en va ton bière, son père est cherché, le cherche 3 heures, où s'est-il caché? Mais un brave cœur lui dit, ton papa, pauvre petit, l'est déjà en route, le bon Dieu n'est pas gentil. Jean s'en va en route, son père cherché, le cherche 3 heures, où s'est-il caché? Mais un brave cœur lui dit, ton papa, pauvre petit, l'est déjà en terre, le bon Dieu n'est pas gentil. Jean s'en va en terre, son père cherché, le cherche 3 heures, où s'est-il caché? Mais un brave cœur lui dit, ton papa, pauvre petit, est déjà en cendre, le bon Dieu n'est pas gentil.
Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde, et le lendemain, quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les cas du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Mais Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Le maître d'école et ses potaches, le maire, le pedo, le bougna, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste, pour voir ça ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu ne leur pardonne, les enfants le cœur au milieu, du saint sacrifice abandonne le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes, qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Margot dégrafait son corsage pour donner la cougoute à son chat. Tous les cas du village était là, 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 était là, 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 là. Mais Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment.
puis un jour, ivre de colère, elles s'armèrent de bâtons, effarouches, elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour se consoler, prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls les vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la goutte à son chat, tous les cas du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Mais Margot, qui était simple et très sage, résumait que c'était pour voir son chat. Tous les cas du village étaient là, 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 étaient là, 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 étaient là, 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 là. Bravo. C'est que je n'ai pas le fond méchant, je ne souhaite jamais la mort des gens. Mais si l'on ne mourait plus, je crèverais de faim sur mon talus. Je suis un pauvre fossoyeur. Les vivants croient je n'ai pas le remords à gagner mon pain sur le dos des morts. Mais ça me tracasse et d'ailleurs je les enterre à contre-cœur. Je suis un pauvre fossoyeur. Et plus je lâche la bride à mon émoi, et plus les copains s'amusent de moi. Ils me disent, mon vieux, par moments, tu as une figure d'enterrement. Je suis un pauvre fossoyeur. J'ai beau me dire que rien n'est éternel, je peux pas trouver ça tout naturel. Et jamais je ne parviens à prendre la mort comme elle vient. Je suis un pauvre fossoyeur, ni vu ni connu. Brave mort, adieu. Si du fond de la terre on voit le bon Dieu, dis-lui le mal que m'a coûté la dernière pelletée. Je suis un pauvre fossoyeur. Je suis un pauvre fossoyeur.
À l'accordéon ce soir, Jacques Echenne dans le Vieux Léon. Allez, chauffe.
De Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, après la voix charmeuse Monique Serge derrière un micro, et puis Nicolas va nous rejoindre très bientôt. Il prépare, pour tout vous dire, l'émission de lundi prochain. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous lire une annonce pour présenter un peu rapidement, bien sûr, l'émission d'aujourd'hui. Après, je demanderai à nos deux invités de se présenter un petit peu, rapidement, en tout cas autour du sujet dont on va traiter. Et puis cette annonce, et puis l'émission, vous pourrez l'écouter, la lire, donc en ce qui concerne l'annonce, et l'écouter demain, à partir de demain. Vous faites Trou Noir, en pluriel, Radio Libertaire, vous avez l'ensemble des émissions depuis le début. Voilà, donc une petite présentation rapide. Jean-Marc Royer, notre invité, l'auteur de l'appel Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima, des crimes contre l'humanité, et des livres Le Monde comme projet Manhattan, et aussi La science creusée de l'inhumanité, décoloniser l'imaginaire occidental. Ce dernier livre, d'ailleurs, servira un petit peu à actualiser, puisqu'il a été écrit quand même il y a une dizaine d'années à peu près.
Ouais, voilà.
Actualiser. L'actualité, d'ailleurs, n'est pas forcément sur le sujet, aller dans le bon sens, mais bon, on aura l'occasion d'en parler. Donc, il partage avec nous l'essentiel de sa récente intervention en rencontre Science en crise, avec un S à crise, organisée par le collectif Science Critique, pour lequel... Non, ça c'est le collectif, non ? La science est une chose trop importante pour être laissée entre les mains des seuls savants. C'est le sous-titre de leur site. Donc la réflexion de Jean-Marc n'est pas un réquisitoire contre la recherche et la rationalité scientifique, c'est ce qu'il dit en début de son intervention, mais il analyse sa déclinaison en Occident, pour lesquels un progrès, j'ai mis des guillemets, linéaire, un P majuscule d'ailleurs et des guillemets, linéaire et sans limite permettrait la connaissance parfaite de la complexité du réel. Par ces transgressions actuelles, la vie elle-même devient objet de manipulation. Enfin, tout ça, on va en parler un petit peu, évidemment, dans l'émission. L'histoire longue permet de comprendre comment s'est mise en place cette imprégnation de notre imaginaire par la rationalité calculatrice. Quelques exemples, industriation au Moyen-Âge, je pense qu'il définira un peu plus dans les échanges qu'on va avoir avec lui, réforme protestante, alliance avec le capitalisme thermo-industriel et les États-nations modernes. Voilà. En particulier, la guerre de 30 ans, 1914-1945, donc c'est un chapitre de son intervention, industrielle, totale, mondiale, permise par les connaissances de scientifiques de renom, est un crime contre l'humanité qui reste impuni et menace aujourd'hui nos vies à tous. Bombardement massif de civils, eugénisme pratiqué dans plusieurs pays, bombes atomiques, etc. Arrive à l'âge adulte la première génération nourrie par les écrans, les objets connectés, le cloud, le distanciel, les algorithmes et l'intelligence.